Donc le second thème, comme il était convenu, comment transmettre la foi aux enfants. Donc j'aimerais, en guise d'introduction, nous laisser enseigner par la transmission du bâton lors d'une course de relais en athlétisme. Pour ces athlètes que nous voyons, savoir passer le relais est une technique qui s'apprend, savoir passer le bâton. Comme dans une course de relais unissent deux athlètes, les parents et l'enfant doivent s'accorder, doivent accorder leur foulée afin de pouvoir passer le bâton avec succès. Savoir passer le bâton de la foi. Le coureur, à l'approche du passage du relais, est en phase de ralentissement, celui qui tient le relais. Il adapte sa course par rapport à celui qui est là en train d'attendre le bâton. Il adapte sa course afin de permettre la transmission du bâton. Par contre, le second athlète, il est en voie d'accélération. Il est prêt à entrer dans la course. Et la passation du relais est un moment important, vital, délicat dans la course et peut engendrer soit la victoire, soit la défaite. De même, il est important que les parents adaptent leur vitesse, adaptent leur enseignement au niveau des enfants qui commencent à entrer dans la course. L'apôtre Paul pouvait dire, avec les Juifs, j'étais comme les Juifs. C'est adapté afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Pourquoi ? Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et j'ai tout fait à cause de l'Évangile. Et on pourrait paraphraser cette phrase qui va venir par la suite. Avec les enfants, tu peux y aller. Avec les enfants, j'étais comme un enfant. Afin de gagner les enfants, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Une autre leçon, donc, et là encore là, l'autre leçon qu'on peut dire, ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à l'adulte. C'est à l'adulte de s'adapter à l'enfant. Cela est très important. Celui qui est dans la course, à l'approche de son équipier, ralentit devant celui qui va entrer dans la course. C'est à nous de s'adapter à l'enfant et non l'inverse. Une autre leçon que nous pouvons tirer de cette illustration est que les coureurs ont une distance, tu peux y aller s'il te plaît, ont une distance courte de 20 mètres pour transmettre le bâton. Ils ont 20 mètres pour transmettre le bâton. Si ce bâton est transmis au-delà de ces 20 mètres, c'est l'élimination. Et il y a quelques mois en arrière, je ne sais plus dans quelle course d'athlétisme, voilà, il y a eu une équipe, l'équipe de France. Voilà, je pense que voilà, ça tombe sur nous. Je crois que c'est l'équipe de France en ce cas. C'est normal. L'équipe de France qui a été éliminée, je ne sais plus quelle médaille qu'ils avaient, enfin pour une fois qu'ils avaient une médaille, ils ont été éliminés parce qu'ils ont mal transmis le bâton au-delà de ces 20 mètres. Et il en est de même pour transmettre la foi aux enfants. Nous avons un temps limité, très limité. Et au-delà de ce temps, c'est trop tard. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on peut comprendre que le mot « plus tard », pour le diable, c'est son mot préféré. Quand on dit, nous, parents chrétiens, on va attendre. Plus tard, demain. Parce qu'il sait très bien, quand on utilise ce mot « plus tard », cela correspond à jamais. Jamais. C'est pourquoi le diable aime bien entendre les parents chrétiens dire, on va attendre demain. Demain. Parce qu'il sait très bien que demain, c'est trop jamais. Il est très, très intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, le mot « transmettre » est en grec « paradidomi ». C'est très intéressant. Qui est le plus généralement traduit en français par « mettre dans la main d'un autre ». Donc on voit le parallèle avec la transmission du bâton. Donc « paradidomi » est traduit par « mettre entre les mains d'un autre ». Et aussi « enseigner », plusieurs traductions possibles. « Mettre dans la main d'un autre » ou « enseigner ». Ce mot est constitué de deux racines grecques, excusez-moi. « Para » et « didomi ». Le mot « para » signifiant, comme c'est marqué, « à côté d'eux », qui a donné donc en français, « para » a donné en français le mot « parent ». C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est vivre, « para », c'est quelque chose qui est vivre à côté d'eux, et qui a donné en français le mot « parent » et le mot « didomi » signifiant « donner un cadeau », »,« donner un cadeau », »,« donner une instruction ». Ainsi, nous pouvons dire, en étudiant ce mot-là, « paradidomi », que la transmission de la foi est une tâche que Dieu réserve avant tout aux animateurs, bien sûr. Ani didomi. C'est bien de savoir ça quand même, hein? Non, c'est paradidomi. Ah, c'est pas ani didomi, c'est paradidomi. La transmission de la foi aux yeux de Dieu, c'est une tâche que Dieu réserve avant tout aux parents. Le principe biblique, c'est paradidomi. Papa, maman, vivante à côté de l'enfant, pour lui transmettre quelque chose qui vit à côté, vivant à côté à la maison, jouant avec lui, à côté de lui. Donc, toujours, bien sûr, d'une façon adaptée à l'enfant. Donc, il n'est pas possible, premier point, il n'est pas possible de transmettre quelque chose à notre enfant si nous ne vivons pas à côté d'eux. Ce n'est pas possible. C'est la première chose. Il y aurait beaucoup de choses, bien sûr, vous en doutez, à dire là-dessus. Si on a le temps tout à l'heure, on essaiera peut-être d'avoir un petit partage là-dessus. Et il y a beaucoup d'anecdotes, comme je le disais aussi hier au pasteur Stéphane et à son épouse. C'est aussi important de jouer avec l'enfant. Et dans le cas d'une colonie, il y a quelque temps en arrière, à l'Opérette, c'est une colonie, à l'Opérette, c'est à côté de Brest. Et donc, il y a 2-3 ans en arrière, j'ai voulu jouer au football avec les enfants, mais j'avais oublié un détail, je n'ai plus 20 ans. Ça, c'est un détail que j'avais oublié. Le cœur a toujours 20 ans, mais les jambes un petit peu moins. Et pour justement être à côté d'eux, non pas seulement à côté d'eux, durant le culte, mais d'être à côté d'eux dans leurs activités. Et donc, j'étais tout content de jouer au football avec eux. Mais voilà, ça s'est terminé par un joli claquage. Donc, bon, voilà. Mais, donc, voilà. Et alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, la leçon, c'est cela, qu'il n'est pas possible de transmettre à nos enfants si, quelque chose si nous ne vivons pas à côté d'eux. Le cœur du papa. Le cœur du papa doit être attaché à son enfant. Le cœur du papa doit être attaché à son enfant. Et ça, mes bien-aimés, c'est tout l'enseignement de la Bible. C'est un sacré avertissement que nous allons voir maintenant. Avec un grand sérieux, l'un des reproches que Dieu fera au peuple d'Israël, c'est les dernières paroles de l'Ancien Testament. Paroles terribles. C'est fait, le reproche que Dieu va faire, c'est reproche au père qui, de n'avoir pas aimé suffisamment ses enfants, leurs enfants, en passant du temps avec eux, en passant du temps pour jouer avec eux, pour parler avec eux, pour prier, pour lui raconter aussi une histoire. Regardons ensemble Malachie, Malachie 4:6. Malachie 4:6, c'est des paroles terribles. Et chaque fois que je lis ces paroles-là, je tremble sincèrement, pour ne pas dire pleurer. C'est les dernières paroles que Dieu nous transmet dans l'Ancien Testament. Malachie 4. Et là, il y a des paroles qui contiennent une malédiction. Et aussi, avec Dieu, bénédiction également. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable sont les dernières paroles. Après, je crois que c'est 400 ou 500 ans qu'il y aura un silence entre la fin de Malachie et Matthieu. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Lorsqu'il y a un interdit, qu'est-ce que ça signifie aux yeux de Dieu? Lorsqu'il y a un interdit dans le pays, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un péché. Lorsque le pays est frappé d'interdit, c'est parce qu'il y a eu un péché. Et là, ça va encore peut-être bouleverser les conceptions humaines. Lorsque le Père, aux yeux de Dieu, lorsque le Père, le cœur du Père n'est pas attaché à son enfant, aux yeux de Dieu, c'est un péché. C'est un interdit. Terrible. Ça, c'est au regard de Dieu, bien sûr. Mais il y a cette promesse. Néanmoins, je vais vous envoyer le prophète Élie, afin que par ce prophète, le cœur du Père revienne vers son enfant et que l'enfant revienne vers le Père. Parce que si je ne vous envoie pas le prophète, eh bien, je risque de frapper le pays d'interdit. Il ne peut pas y avoir une pleine bénédiction de Dieu dans une famille. Il ne peut pas y avoir une pleine bénédiction de Dieu dans une église. Dieu bénit. Heureusement, Dieu a compassion. Dieu est bienveillant. Mais néanmoins, sa main est quelquefois retenue. Parce que dans une famille, parce que dans nos églises, le cœur du Père n'est pas attaché à son enfant. C'est important de réaliser, parce qu'aux yeux de Dieu, il y a un interdit. Il y a un péché. Lorsque le Père n'aime pas suffisamment son enfant, il y a un interdit. Et donc la main de Dieu est retenue. La main de Dieu est retenue. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est une vérité divine. Mais il y a une promesse. Il va envoyer le prophète. Et c'est qui le prophète que Dieu va envoyer? 400 ans, je crois que c'est 400 ou 500 ans après. Je crois que c'est plutôt 500 ans, mais à vérifier. C'est qui le prophète que Dieu va envoyer? Oh, il y a des érudits là, hein? Waouh! Jean-Baptiste. Et quel va être le rôle premier de Jean-Baptiste? Oui, déblayer le terrain, préparer. En faisant quoi?
Préparer la venue de Jésus.
Oui, on prépare. Et...
la repentance.
Afin de préparer la venue du Seigneur, que faut-il faire? Selon la Bible. C'est pas le message. Le message de la repentance va venir après. Ah, c'est bien d'étudier la parole de Dieu. C'est bien. Allez, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, mes bien-aimés. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Luc 1, 17. Allez, Luc 1, 17. Luc 1, 17, qu'est-ce qu'il nous est dit? Voilà! Il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance d'Élie, c'est la réalisation, l'accomplissement de Malachie 4.6, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer la venue du Seigneur. pour préparer la venue du Seigneur pleinement dans nos familles, pour préparer la venue du Seigneur pleinement dans l'Église, le cœur du Père, par l'Esprit de Dieu, doit revenir vers son enfant pour l'aimer. Passer du temps avec lui pour lui transmettre l'héritage de la foi en Jésus-Christ. Donc nous sommes tous invités par Dieu à écouter ses instructions. Non pas les instructions d'un homme, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est marqué dans la Bible, mais celles concernant les vérités bibliques, concernant l'enseignement des enfants. Et pour cela, très rapidement, je vous invite à tourner nos regards dans un psaume 78. Et là où l'on voit quelques principes très intéressants concernant l'instruction que nous devons apporter, des conseils remplis de grâce de la part de Dieu pour enseigner nos enfants. Et au psaume 78, au verset 1er, il nous est dit « Mon peuple, écoute mes instructions. » Ce matin, nous avons été invités à regarder les enfants. Là maintenant, « Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille à ma bouche. » Nous sommes appelés et bien-aimés, comme pouvait dire aussi Jean dans l'Apocalypse, d'écouter, prête l'oreille. Là, nous sommes appelés aussi à écouter, à prêter. Ce sont même des verbes à l'impératif. Écoute, prête l'oreille. Il est nécessaire, avant d'enseigner nos enfants, dans notre famille ou ici dans nos assemblées, de se laisser nous-mêmes enseigner par Dieu. Avant d'enseigner l'enfant, on doit nous laisser enseigner par Dieu dans un temps de communion, dans un temps de prière, et de notre écoute que nous aurons de la parole de Dieu va dépendre la qualité de l'écoute de nos enfants. Si nous sommes attentifs à l'écoute de la parole de Dieu, automatiquement, les enfants seront aussi attentifs à nos paroles. Donc, ensuite, toujours dans le psaume 78, c'est le déroulement, je ne sors pas du contexte. Donc, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, nous devons savoir par expérience. Ce que nous avons entendu de la part de Dieu, de ce que nous avons lu, ce que maintenant nous savons. On ne peut pas enseigner correctement nos enfants si nous ne connaissons pas par expérience ces vérités bibliques. L'enseignement chrétien doit être accompagné d'une expérience personnelle, authentiquement vécue dans notre vie personnelle. Transmettre des vérités auxquelles nous n'avons jamais expérimenté serait en quelque sorte un mensonge vis-à-vis de ces enfants. Plus qu'une simple connaissance intellectuelle, nous devons transmettre à nos enfants notre expérience, notre connaissance de ce que nous avons reçu de la personne même de Dieu. Alors si nous remplissons ces deux conditions, si nous écoutons, si nous savons, nous pouvons être des bons parents, nous pouvons entrer aussi dans le processus d'être un bon animateur, d'être une bonne animatrice. Nous pourrons alors aussi être de bons parents, des bons animateurs. Et qui sera au bénéfice de cet enseignement? Qui sera au bénéfice, en priorité? Les enfants. Toujours, je ne sors pas du contexte, c'est la Bible. C'est la Bible, je ne sors pas du contexte. Donc là, c'était le verset 3, maintenant c'est le verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future, là c'est pour les grands-parents, les grands-pères, grand-mères. Donc, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, Dieu nous dit, nous ne cacherons pas à nos enfants. Ce principe, cette vérité ne souffre, nous l'avons déjà vu peut-être un petit peu ce matin, mais il y a d'autres, on n'a pas le temps, mais je peux vous affirmer que dans la Bible, c'est une vérité biblique qui ne souffre d'aucune ambiguïté, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est clair, c'est net. Et c'est à cette jeune génération, aux enfants, qu'il s'agit en priorité absolue d'enseigner. L'enseignement des ados est important. L'enseignement des jeunes, c'est important. Des parents, c'est important. Faut faire attention à ce que je dis. Faut pas aussi mal interpréter mes paroles. Mais en priorité absolue, c'est l'enfant. Vous connaissez peut-être c'est avec Moody, le célèbre revivaliste évangéliste, suite à une réunion d'évangélisation, est reçu par un frère de l'Assemblée, et il dit « Alors, bien-aimé, combien y a-t-il d'âmes qui, ce soir, suite à votre prédication d'évangélisation, qui brûlaient, combien y a-t-il d'âmes qui se sont données au Seigneur ?» Une âme et demie. Ah, alors, l'autre, il dit... ah oui, j'ai compris. Non, deux âmes et demie. Ah, j'ai compris. Donc, un enfant et deux adultes. Ah non, non, non. Non, non. Deux enfants et un adulte. Mais deux âmes et demie, oui. La conversion de l'adulte est importante. C'est important. Le ciel s'est réjoui pour cet adulte. Mais dites-moi, il a déjà consumé une bonne partie de sa vie. Tandis que l'enfant, il a toute sa vie devant lui, toute sa valeur. Dieu va l'utiliser. Dieu se réjouit pour la conversion d'un adulte. Merci Seigneur. Lorsque quelqu'un, avant qu'on en parlait hier soir, même si c'est sur son lit de mort, avant d'entrer dans le coma, il y a un espace d'accueil. Il y a un espace d'accueil dans les bras de Jésus, toujours. Mais il va être sauvé, arraché aux flammes de l'enfer. Merci Seigneur, quelle consolation pour nous. Mais entre guillemets, on va se dire, quel gâchis aussi. Quel gâchis. Mais tandis qu'un enfant, quand il se convertit, il a tout le potentiel de servir le Seigneur durant toute sa vie. C'est pourquoi quand Jésus va prier pour l'enfant dans Marc 10, 13, c'est le feu d'artifice dans sa prière eulogios. C'est cette prière de consécration, c'est cette prière de mise à part pour que l'enfant entre pleinement dans les projets de Dieu que Dieu a prévus pour lui. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu, afin qu'il puisse grandir sereinement, tranquillement, droitement, avec Dieu. Alors, donc, c'est à cette jeune génération que nous devons en priorité annoncer l'Évangile. Et vous savez que le diable fera tout pour détourner, et on peut le voir, pour détourner nos regards de ce principe divin. Et combien de fois je souffre, on en parlait tout à l'heure, avec le pasteur Stéphane, je souffre avec la spécificité de mon ministère de tourner au niveau national, je souffre qu'il faut continuellement transmettre toujours le même message. Les parents sont convaincus de notre enseignement, mais très rapidement, ils oublient. Ce principe divin. Ils reçoivent, oui, c'est vrai, c'est important de travailler, d'enseigner notre enfant, mais ce principe disparaît vite. Parce que l'ennemi fait rapidement son ouvrage, de telle façon que les parents oublient ce principe divin. Parce que l'ennemi sait que si l'enfant grandit dans les voies de Dieu, il va être une arme efficace dans les mains du roi des rois. Et il va avoir une autre notion devenue plus tard, une autre notion concernant le mariage. Il va avoir une autre notion concernant la famille. Il va avoir une autre notion par rapport au travail bien fait. Tandis que celui qui n'est pas instruit dans les voies du Seigneur, il va avoir malheureusement une autre conception de la famille, une autre conception du travail et aussi du mariage. Donc, et il sait que sans cela, c'est la mort assurée de la famille. Je vous rappelle les dernières paroles de Moïse avant de monter à la montagne pour voir la terre promise. On peut tout de suite aller le voir très rapidement. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Ce sont les dernières paroles et on sait, le chapitre suivant, on sait qu'il avait toutes ses facultés intellectuelles. Verset 45, on peut peut-être... 32-45. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ses paroles devant Israël, il avait toutes les prophéties, toutes les bénédictions sur les 12 tribus d'Israël, et il leur dit, sur les dernières paroles, il leur dit... Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure. C'est pas que je vous exhorte, que je vous demande, non. Que je vous conjure aujourd'hui de recommander à qui? À vos enfants. Si, bien sûr, c'est afin qu'ils les observent. C'est pas simplement le fait de leur dire, mais qu'on leur apprenne à observer, mettre en pratique toutes ces paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance. Le ministère parmi les enfants, ce n'est pas aux yeux de Dieu une chose sans importance. Ceux qui travaillent parmi les enfants, ce n'est pas un sous-ministère. Non, aux yeux de Dieu, ça a de l'importance. Pourquoi ? C'est votre vie. C'est votre vie. Si nous voulons avoir de la vie dans notre famille, occupons-nous, instruisons nos enfants. C'est un principe divin. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est votre vie. Et étant donné que l'Église est ce qu'est la famille, n'oubliez jamais ce principe. L'Église, elle est ce qu'est notre famille. Ce n'est pas parce que nous rentrons comme ça dans l'Église que d'un seul coup, miracle, on est dans l'Église, oh, tout est beau, c'est formidable. Non. Ce qu'est la famille... L'Église devient et ce qu'est la famille. S'il y a la mort dans la famille, ne croyez pas que d'un seul coup, quand on franchit la porte, que la famille, d'un seul coup, elle est ressuscitée. Il y a le processus, bien sûr, de restauration. Il ne faut pas se méprendre dans ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, s'il y a la vie dans la famille, papa, maman, avec les enfants, ben automatiquement, la vie qu'ils ont dans la famille, ils vont... l'apporter dans l'Église. Et cette vie dans l'Église, elle va aussi aller dans le quartier. C'est le principe de Dieu. Famille, Église, et ensuite cité. C'est le principe de Dieu. C'est votre vie. Nous allons continuer l'étude de ce psaume 78, et après avoir lu et discerné qui est au bénéfice de l'enseignement, nous allons essayer maintenant de découvrir la méthode pédagogique de Dieu. Quelle méthode choisir ? Bien sûr, avec Dieu, il ne nous est pas dit, vous allez les moyens. Là, vous allez utiliser le PowerPoint. Ça, c'est le principe de Dieu. Il y a quelques années, c'était le phallographe. C'est une bonne méthode. Hein. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu désuet, on va dire. Hein. Bien, toujours efficace. Il y a des enfants qui aiment bien le phallographe encore. Hein. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup, enfin, personnellement, j'utilise beaucoup le PowerPoint, mais demain, ça sera peut-être un autre moyen. Mais en tout cas, il y a des principes. Il y a des principes qui sont importants. Alors, tout d'abord, voyons ce qu'il ne faut pas faire. Toujours au psaume 78, c'est notre ligne de conduite, tout d'abord au verset 4, il nous est dit « Nous le cacherons point à nos enfants. » Attention à cacher l'Évangile. Comment pouvons-nous cacher l'Évangile à nos enfants? Tout d'abord, en se taisant. Allez, à la maison, on ne parle plus de Dieu. On va parler de Dieu dimanche prochain à l'église. Là, on est à la maison. Hein. Il faut dissocier ce qui se passe à l'église et dissocier ce qui se passe à la maison. Malheureusement, c'est le cas de nombreux parents. C'est le cas, malheureusement, de nombreux parents. En déformant aussi certaines histoires de la Bible. En essayant d'expliquer tel ou tel miracle. Oui, il y a eu ce miracle-là, mais oui, c'est parce que... On essaye d'expliquer, de déformer. Je me souviens très bien d'un de mes professeurs de religion, lorsque j'avais environ 12 ans, c'est encore resté gravé, qui essayait d'expliquer que le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge. C'était un endroit... Bah oui, c'est normal, parce que c'était un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Bah, peut-être, mais enfin, je ne comprends pas, c'est qu'après, toute la cavalerie de Pharaon, il me semble, ont été engloutis par les eaux. Donc, moi, je veux bien, mais... Donc, attention, on peut cacher l'Évangile en essayant d'expliquer, de déformer certains miracles. On peut déformer l'Évangile de la grâce offerte en Jésus-Christ en annonçant aux enfants une morale, en annonçant une religion avec des principes, des préceptes humains. On peut cacher l'Évangile, l'Évangile glorieux de Jésus-Christ en leur présentant une triste religion. Nous pouvons aussi masquer l'Évangile à nos enfants en le contredisant par notre propre vie, ayant une attitude qui n'est pas en conformité avec l'Évangile. Et nous sommes en conséquence un objet de scandale. Et rappelez-vous, comme je le disais, je crois, il me semble, hier soir, que la première Bible que les enfants liront, c'est notre vie. C'est la première Bible que les enfants vont lire. Voyons maintenant ce qu'il faut faire. Que nous est dit au psaume 78 et au verset 2, « J'ouvre ma bouche ». Alors, pour certaines versions, c'est marqué « J'ouvre ma bouche par des sentences oui. ». Toi aussi. Alors, ça a été mal traduit, je suis très second. 8 secondes 1910, je suis formaté, ça j'ai du mal à lire les autres versions parce que je suis formaté de chez formaté. Moi c'est 8 secondes 1910, toutes mes références, tout, voilà. Mais là ça a été Monsieur Second, il a fait du très bon boulot, il a fait une très bonne traduction, ça a été corrigé d'ailleurs. Maintenant la nouvelle version 8 secondes, ça a été corrigé, sur la colombe c'est fait, sur le semeur c'est fait, je ne sais la version que tu as, bon ça a été mal traduit, c'est j'ouvre ma bouche non pas par des sentences, mais j'ouvre ma bouche par des paraboles. C'est la vraie traduction. Quelquefois, je ne sais pas si quelqu'un a une autre... C'est par des illustrations.
Comparaison,
oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Comparaison ou illustration, maintenant par des paraboles, voilà, hein, ça dépend des versions, mais c'est le vrai sens. Hein. Donc, c'est à cet endroit, si vous voulez, c'est en grec, c'est... en hébreu, c'est machal, signifiant parabole. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, machal, en hébreu, c'est parabole, histoire, et aussi chant. Ça, c'est tout aussi intéressant dans l'original, dans l'hébreu. C'est machal. Donc, machal, c'est parabole et aussi chant, dont l'importance aussi des chants. Donc, c'est absolument important de savoir l'importance qu'il faut utiliser des paraboles pour enseigner les vérités bibliques. Et d'ailleurs, que faisait Jésus? On le disait tout à l'heure. Lisez, regardons. Vous pouvez garder un index ou un signé sur le psaume 78. Je crois que c'est Matthieu 13, 35. Voilà, Matthieu 13, 35. On peut commencer 34. Qui est notre exemple. N'oubliez pas que Jésus, c'est notre exemple, notre modèle. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne leur parlait point sans parabole. C'est-à-dire quand Jésus leur parlait à la foule, il utilisait toujours des paraboles. Toujours. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Donc, c'est Jésus est l'accomplissement de la promesse qui était écrite dans le psaume 78. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Et tous les... C'est la pédagogie divine. C'est la pédagogie divine. Tous les experts en développement de l'enfant nous disent que les enfants, et j'oserais dire aussi les adultes, apprennent mieux à travers une histoire. Et rien n'est plus puissant qu'une vérité spirituelle véhiculée par une histoire. Parce que, écoutez, quand Dieu va demander, quand Dieu va demander à Nathan, « Nathan, tu dois aller voir le roi David. » Alors imaginez, tu vas lui dire « Roi, ô roi, tu as commis l'adultère. Ô roi, tu as commis un meurtre. Roi, tu dois te repentir, demander pardon. » Imaginez que Nathan, et peut-être qu'il a dit à Dieu, « Bon, Dieu, tu ne peux pas servir, demander cela à quelqu'un d'autre ?» Il accepte. Ça a mis un certain temps pour aller le voir. Il a attendu le moment propice, d'où l'importance aussi pour dire certaines vérités bibliques à telle ou telle personne, de le faire quand c'est le moment propice. Il y a des vérités que l'adulte ou même l'enfant n'est pas encore apte, prêt à recevoir. Donc il a attendu le moment propice. Et quand il a été voir le roi, que lui a-t-il dit ? Il était une fois un propriétaire. Une petite brebis unique qu'il a chérissée. Vous connaissez la suite. Mais bien sûr, ce n'était pas raconter une histoire pour raconter une histoire. On n'est pas des raconteurs d'histoires. Mais il avait un but. C'est ça l'important. Quand on raconte une histoire aux enfants, c'est pour un but. On sait pourquoi. Et à la fin de l'histoire, le roi dit, mais cet homme mérite la mort. Cet homme, c'est toi. Donc on voit le pouvoir extraordinaire d'une histoire. Mais, je répète, ce n'est pas pour raconter une histoire pour une histoire. C'est très important qu'il y ait une application derrière. Je viens de rentrer dans une nouvelle église et j'avais une réunion avant-hier et ils m'ont proposé leur futur spectacle pour Noël. Je regarde et avec temps, j'étais obligé de réagir. Avec délicatesse, avec sagesse, parce qu'après, ils vont dire, « Pasteur Jean-Jacques, si tu viens ici, la première parole, ce sont des reproches. » Alors, avec sagesse. Mais c'était une belle histoire pour Noël, qui est bien intéressante, l'idée est intéressante, mais je leur dis, « Mais alors, mais pourquoi vous racontez cette belle histoire-là ? Vous parlez de la croix de Jésus-Christ, vous parlez de la multiplication des pains, vous parlez de Jérus, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire, là ? Il n'y a rien. Alors, je dis, bon, je vais vous aider. Et maintenant, il va falloir qu'à chaque rencontre, parce que c'était une histoire très intéressante, ils rencontraient les garçons qui rencontrent des personnages de la Bible. Ça racontait des belles choses, mais, entre guillemets, c'est purement gratuit. Il n'y a aucune application. Alors, dès maintenant, chaque fois qu'on rencontre Zachée, qu'on rencontre le centenier, qu'on va rencontrer Jairus, maintenant, on va essayer de travailler ensemble et donner une application. Comme nous, je vais parler aux animateurs et animatrices, ce qu'on appelle, nous, la VAS, la vérité à souligner. Qu'est-ce que l'on veut apporter à l'enfant ? Même si c'est une ou deux lignes, mais à chaque rencontre que l'on va faire, il faut qu'il y ait une application, une vérité. Il faut interpeller. Pourquoi ? Donc, quand Nathan raconte cette histoire à David, il savait. Et une parabole, c'est une histoire terrestre pour une application céleste. Une parabole a toujours ce sens-là. Après, Jésus, il donne l'explication de la parabole. Donc, attention, on n'est pas que des raconteurs d'histoire. Mais néanmoins, il nous faut raconter. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Il n'y a pas... Est-ce que tu as été un petit peu avant ? Excuse-moi. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît ? Ou c'est moi qui... Voilà. ce que nos pères nous ont raconté. Il nous faut raconter des histoires. Il nous faut... Et j'étais fortement interpellé, il y a quelques années en arrière, par un professionnel de l'éducation d'un enfant qui dit qu'un enfant qui est au bénéfice d'une histoire régulièrement racontée par ses parents gagne l'équivalent de 6 mois sur son année scolaire. Un enfant qui est au bénéfice de... Là, c'est séculier, hein, même d'une histoire séculière. Mais qui est au bénéfice d'une histoire racontée par ses parents, gagne sur son année scolaire 6 mois. Immédiatement, tout de suite, quand j'ai entendu ça à la radio, j'étais dans mon véhicule, tout de suite, j'ai pensé à cela. Ce que nos pères nous ont raconté. Les bienfaits d'une histoire racontée à son enfant sont important pour le développement de l'enfant. Et nous, nous avons, dites-moi quand même, des belles histoires à raconter aux enfants. On a des belles histoires dans la Bible. Hein. Il y a de quoi raconter. Il y a aussi de quoi raconter dans les magazines Tom et Carotte. Vous savez qu'à chaque magazine Tom et Carotte, il y a toujours des belles histoires que vous pouvez utiliser. Il y a de quoi raconter des belles histoires. Et même au-delà de l'histoire, importante. Dites, un enfant, dans son berceau, dans son petit lit, son lit d'enfant, qui voit son papa, le soir, en train d'ouvrir sa Bible. Non pas sur son iPhone. Désolé les frères. Mais qui voit son papa avec sa Bible. L'enfant qui écoute son papa, qui voit son papa avec sa Bible. Ah, l'imprimé, là, ça c'est bien ça. Et qui dit, waouh, si mon papa attache de l'importance à ce livre, qu'il chérit, qu'il tient dans ses mains, qu'il me lit des histoires, moi je vais me dépêcher d'apprendre à lire pour lire ce livre auquel mon papa, tient tant. Au-delà de l'histoire, vous voyez. Et aussi, une autre marque aussi, c'est que le papa va transmettre à son enfant qu'il prend quelques minutes pour lui. Même si c'est quelques minutes, il quitte toutes ses obligations professionnelles pour dire, allez mon fils ou ma fille, je vais prendre quelques minutes pour être avec toi, paradis domi, ce petit contact avec son enfant. Bien sûr, au-delà de toutes ces considérations, au-delà de l'histoire, c'est un temps d'intimité que le papa, que la maman donne à son enfant. Il y a une histoire d'un papa qui travaillait des heures et des heures à travailler, et Dieu n'est pas contre le travail. C'est un précieux trésor que l'activité, bien fait, mais il passait tout son temps à travailler. Pour pouvoir peut-être certainement offrir des belles affaires à son enfant. Belles baskets, etc. etc. Mais qui ne consacrait pas du temps pour son enfant. Et un soir, son enfant lui dit, « Papa, quand tu travailles une heure, combien ça te rapporte ?»« Oh, mon enfant, c'est pas une histoire que c'est pas une question que l'on pose à son papa. » Ça te regarde pas. Papa, s'il te plaît, combien ça te rapporte? Alors, je vais dire, peut-être, je n'ai pas fait les calculs, mais allez, 15 euros. Ne cherchez pas après. 15 euros. Oh, merci, papa. Le lendemain, vous connaissez peut-être cette histoire-là, le lendemain, le papa, rentrant tard de son travail, trouve sur la table une enveloppe. Et l'enfant qui est là dit, papa, c'est pour toi. C'est pour toi, le papa. Ouvre l'enveloppe et trouve 15 euros. Papa, ces 15 euros, ça correspond à une heure que je t'achète pour que tu puisses passer une heure avec moi. Ensuite, et j'espère que dans quelques années, vos enfants pourront dire, ah, ce que mon père m'a raconté. Il nous faut maintenant enseigner au verset 5, toujours du psaume 78. Il a ordonné. C'est donc un ordre. Il a ordonné à papa. La Bible est claire, hein ? À papa. Aidé par maman. Mais c'est papa. C'est papa qui est le chef de famille. Excusez-moi. C'est Dieu qui vous a nommé chef de famille. Et oui, c'est tout le Nouveau Testament, c'est cela aussi. Hein. Éphésiens, je l'ai rappelé hier, père, n'hérite pas ton enfant, mais instruis-le. C'est père. Aidé, bien sûr, par maman. Mais le chef de famille, c'est papa. C'est un principe biblique. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à nos enfants. Bien sûr, comme je le disais hier, il y a un des moyens, c'est le culte en famille. Donc, j'ai oublié le côté publicitaire, il y a ce qu'il faut sur la table de publication, mais nous sommes, comme je le disais aussi hier, c'est même pas 80, hier je disais 80, dans mes notes ici, c'est 85% d'ailleurs. D'après un sondage, environ 85% des familles de nos assemblées s'attendent à ce que l'Église instruise leurs enfants dans le domaine spirituel. 85% de nos assemblées s'attendent à ce que ça soit l'Église instruise leurs enfants dans le domaine spirituel. Et vous savez, c'est là aussi une image, j'en ai fait un feuillet qui paraîtra pour le calendrier Trésor quotidien l'année prochaine. J'ai fait un feuillet qui s'intitule « La cerise sans le gâteau ». Parce que normalement, quand les enfants viennent le dimanche matin, nous animateurs, animatrices, nous devrions, en quelque sorte, ne mettre que la cerise sur le gâteau, c'est ça. Nous, on n'est pas là pour instruire l'enfant, on est là c'est pour les accompagner, pour leur faire un complément. La cerise sur le gâteau. Le dimanche matin, ça devrait être que le culte pour les enfants d'adoration, où l'on se réjouit, on chante, on écoute la parole de Dieu. C'est la cerise sur le gâteau. Parce que le gâteau se fait du lundi, samedi, même le dimanche matin. Mais malheureusement, les enfants qui viennent dans nos cultes du dimanche matin, ils viennent sans le gâteau. Sans le gâteau. Parce que à la maison, malheureusement, 85% de nos enfants ne sont pas instruits dans leur maison. Pourtant, c'est un principe biblique indiscutable que l'instruction des enfants doit se faire à la maison. C'est un principe biblique. Tu les inculqueras, Matthieu, Deutéronome. Ah oui, oh, très intéressant. Merci. Yada. Donc là, Yada, c'est nos pères nous ont. Il a ordonné. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à nos enfants. Alors évidemment, le mot enseignement, on voit tout de suite le docteur là sur la chair, là ici sur l'estrade, qui enseigne. Il y a l'enseignant, il y a le pasteur, mais aussi il y a le docteur, l'enseignant. Mais là, dans l'hébreu, c'est différent. Dans l'hébreu, à cet endroit-là, comme d'ailleurs à d'autres endroits, il a ordonné à nos pères de l'enseigner. À cet endroit-là, c'est ça a été traduit par enseigner, mais c'est yada. Yada. Ça veut dire, yada, c'est faire comprendre. C'est s'adapter. Alors, à nous, en tant que parents, en tant qu'animateurs, d'avoir l'enseignement yada. Adapter notre enseignement. Le faire comprendre. Comme je le disais tout à l'heure, avec une question qu'on m'avait posée, j'ai dit, attention, nous devons, un des meilleurs moyens pour faire comprendre des vérités bibliques sans dénaturer le message, utiliser le mot, l'enseignement yada, et un des meilleurs moyens, c'est l'histoire. Notre défi en tant qu'animateur, animatrice des groupes d'instruction biblique, le GIB, Maintenant, on essaye d'utiliser non plus l'école du dimanche, mais le GIB. GIB, groupe d'instruction biblique. Ça a du mal, hein. C'est pas évident, même moi. On essaye, mais c'est difficile. Mais moi, c'est difficile. Donc, pour nous qui instruisons nos enfants, on doit le faire selon le principe Yada, adapté, pour faire comprendre. Comme je disais tout à l'heure, pour expliquer la mort, pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix, il y a des histoires. Pourquoi le sang de Jésus-Christ ne purifie-t-il de tout péché ? Il y a des histoires que vous pouvez faire, qui existent. Certaines se trouvent dans un certain magazine. Voilà. Mais voilà, il y a des moyens. Nous devons avoir cette instruction Yada pour faire comprendre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ensuite, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. En voyage, au coucher, au lever. Et si un soir, vous ne faites pas de culte de famille, ce n'est pas grave. Si vous êtes fatigué, ben voilà, vous couchez, vous dormez, vous reposez, il n'y a pas de souci. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Si un soir, vous êtes fatigué, ça arrive. Hein. Moi, hier soir, je disais à Myriam, ben maintenant, je vais me dépêcher. Je vais me droit dans mon lit. Hein. Après, presque, quasi une petite, pas une nuit blanche, mais presque. Et là, écoutez, hein, moi, je vais me coucher. Et là, d'habitude, je me lève de bonne heure. Ben, là, ce matin, j'ai dit, je vais rester un petit peu davantage au lit. On est quand même sur la grâce, n'est-ce pas ? Heureusement. Voilà. Et si vous êtes fatigué, vous ne faites pas de culte de famille. Vous dites, le lendemain, ben voilà, vous en ferez un. On est sur la grâce. Mais trop d'enfants ne voient un papa chrétien. Ça, par contre, c'est dommageable. Trop d'enfants voient un papa chrétien que pendant l'heure du culte du dimanche matin. C'est dommage. Et malheureusement, ils en ont le contre-exemple à la maison. Contre-exemple à la maison. Quand nous aimons réellement une personne, on n'aime pas la personne que le dimanche. Quand on aime réellement une personne, on l'aime 7 jours sur 7. Il peut y avoir des petits incidents, n'est-ce pas ? Comme ça existe toujours dans un couple. Mais quand on aime une personne, c'est 7 jours sur 7. Et n'oublions pas, mes bien-aimés, que la première Bible que les enfants verront, liront, c'est notre vie. Notre vie vécue à la maison. Alors, c'est la meilleure façon de montrer notre enfant, notre amour pour Dieu et de s'occuper de notre enfant, aussi bien dans le domaine physique, que nous le faisons généralement, mais aussi dans le domaine spirituel. Ce n'est pas un nouveau principe, c'est un principe que l'on trouve, et nous pouvons le lire, que celui qui ne prend pas soin des siens. Et tu peux y aller, Patrick. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, eh bien, il nous y dit qu'il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Père, c'est à toi de prendre la direction de ta famille, nous le voyons, car Dieu nous dit dans Éphésiens, tu peux y aller ? Ah oui, donc là tout à l'heure, nous l'avons lu. Prenez à cœur toutes ces paroles, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et nous pouvons aussi, tu peux y aller aussi, nous devons aussi nous encourager ceux qui ont peut-être pas ce privilège ou la difficulté actuellement d'être soit dans un foyer monoparental ou peut-être que il y a, comme je le disais hier, que la maman qui est chrétienne. Il y a néanmoins, vous pouvez prendre courage. Et vous pouvez prendre courage. Il y a une grâce toute particulière aussi. Dieu prend soin de l'orphelin. Dieu prend soin de la veuve. Et aussi, Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Donc, on peut prendre courage, même si tu n'as pas ce privilège d'être dans un couple où le papa et la maman se trouvent unis pour la même cause. Si tu es seul, il y a cette promesse que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Dieu est avec toi pour t'encourager et t'aider pour ce que ton fils devienne peut-être, par la grâce de Dieu, un futur Timothée, comme nous l'avons lu hier. Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui, le réparateur des brèches. Avec Dieu, l'espoir est toujours permis, n'est-ce pas? Toujours, toujours, toujours permis. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide, bien sûr. Nous, dans le cadre des écoles GIB, donner l'instruction selon le principe Yada et que Dieu nous aide aussi en tant que papa, maman, grands-parents à être aussi des exemples dans notre famille, vivant à côté d'eux. Et croyez que je ne suis pas un exemple. Non. Quelquefois, je le dis à ma honte, j'ai un autre petit-fils qui s'appelle Alexandre. Et quand il vient à la maison, il sait que son papy est toujours dans le bureau. Et lui, il attend qu'une seule chose. C'est qu'un soir, après avoir mangé, il attend toujours. Et dans une semaine, il dit, « Papy, ça serait bien que tel soir, tu puisses jouer avec moi. » Oui, mon petit-fils. Et moi, je devrais m'adapter à lui. À ma grande honte, c'est lui qui s'adapte à moi. C'est-à-dire, dit, bon, si je ne réussis pas à faire sortir papy de son bureau, je vais ruser. Je vais m'adapter. Alors, il vient et dit, papy, j'ai préparé le jeu Ictus. Parce qu'il sait que c'est un jeu chrétien. Alors, moi, je devrais m'adapter à lui. Mais lui, il est plus rusé que moi. À ma grande honte, c'est lui qui s'adapte. Donc, vous voyez que je ne suis pas un exemple, loin s'en faut. Donc, on a tous à progresser de telle façon que ce que l'on dit, ce que l'on proclame, parce qu'on y croit, c'est la parole de Dieu, et bien que chacun, vous comme moi, on puisse réellement le mettre aussi en pratique. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci parce que nous avons pu avoir un temps de partage ensemble, autour de ta parole, autour de ta personne, parce que tu es là. Et nous savons que, Seigneur, maintenant, tu vas aussi nous aider. Tu vas nous aider afin que nous ne puissions pas seulement être des auditeurs, auditrices, oublieux de ce que nous avons entendu, parce que nous savons que c'est la vérité. Nous savons que, Seigneur, tous ces principes sont bons pour nos vies. Tu les as donnés comme conseils afin que nous puissions mettre en pratique ces choses et que nous puissions voir de nos yeux la réalisation de ces promesses. Nous pouvons déclarer que lorsque nous mettons en pratique ta parole, nous sommes heureux dans nos propres actions parce que tu es là, parce que ce sont des principes. Nous voulons les mettre en pratique avec ta grâce, inspirés par ton esprit, aussi vécus par la puissance de ton esprit en nous. Merci Seigneur. Merci encore de bénir nos familles respectives. Oui, que notre famille soit au bénéfice de ta grâce, soit aussi au bénéfice de notre vie de piété personnelle, authentiquement vécue. Merci de nous aider par ta grâce, afin que nous puissions être pour nos enfants des modèles, une lettre ouverte que les enfants pourront lire la Sainte Bible à travers nos vies. Nous pouvons le faire à la condition, bien sûr, que tu puisses réellement vivre en nous. Tu vas nous donner le vouloir. Tu vas aussi nous donner cette possibilité de le faire. Te remettons aussi, Seigneur, cet après-midi, afin que, Seigneur, au-delà de ce spectacle, il y ait réellement cette portée spirituelle, cette portée divine qui va dépasser, Seigneur, aussi ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons aussi espérer. Tu vas nous étonner, Père, et tu vas aussi donner gloire à ton nom, parce que nous savons que tu ne donnes pas nom, la gloire à un homme, mais tu donnes gloire à ton nom. Nous voulons, Seigneur, que cet après-midi, ton nom soit glorifié. Bien sûr que nous puissions luire de ta lumière, mais bien sûr dans le but que ton nom soit glorifié. Alors Seigneur, nous te remettons toutes choses, que les enfants puissent venir, que rien ne les empêche. Planifie toutes choses, Père. Conduis toutes choses. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.